20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vigneault. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission, consacrée à la demande, je le précise tout de suite, d'un certain nombre d'auditeurs de L'heure du crime qui n'ont jamais oublié cette affaire. Et on les comprend, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Il s'agit d'une des affaires les plus extraordinaires, hein, des faits divers les plus extraordinaires des années 80. L'assassinat de l'avocat Jacques Perrault, qui était le mari de la femme jockey la plus célèbre de France, Dari Boudboul. Précisons d'ailleurs tout de suite que Dari Boudboul a été totalement mise hors de cause dans l'enquête sur cet assassinat, qui avait tout d'un contrat de la pègre, mais en revanche, sa mère, belle-mère de la victime, Marie-Elisabeth Conze-Boudboul, a été condamnée en 1994 à 15 ans de prison pour avoir commandité cette exécution. Elle a toujours, pour sa part, nié sa culpabilité tout au long de son procès également, et aujourd'hui encore, elle continue, vous l'entendrez d'ailleurs tout à l'heure, à clamer son innocence. Alors, cette ténébreuse affaire a donné lieu aussi à une enquête de police qui a duré plusieurs années. La personnalité de l'accusé a dérouté, il faut bien le dire, tous ceux qui l'ont approché au cours de cette enquête, pendant le procès bien entendu, et ensuite même à la prison de Fleury-Mérogis où les autres détenus l'avaient surnommé, paraît-il, la doyenne. Et nous allons donc revenir sur cette affaire encore, comporte encore beaucoup de zones d'ombre, avec mes invités. Christian Flèche, bonsoir.
Bonsoir Jacques Pradel.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Vous êtes l'ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. Vous étiez à l'époque, membre de la brigade criminelle.
Ah, j'étais à l'époque, oui, j'étais très jeune, donc j'étais un des chefs de section
de la brigade criminelle. Voilà. Mmh. Et j'ai invité également pour parler de cette affaire Serge Raffi, mon confrère. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci aussi, Serge, d'avoir accepté. Vous êtes rédacteur en chef de l'Obs et vous avez publié un livre passionnant que je viens de relire sur celle qu'on a également appelée La veuve, c'est le titre que vous avez donné à votre livre. Une veuve dont le mari, il faut le dire tout de suite, était bien vivant. Hein. Voilà. Et puis, madame Catherine Driguet. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Et merci aussi d'avoir accepté de venir nous rejoindre. Vous êtes un petit peu en pays de connaissance à côté de Christian Flèche.
Tout à fait.
Puisque vous avez été une des deux premières femmes policiers, membres d'une équipe de la
crime, je crois.
La brigade criminelle. Et à l'époque, vous avez mené ce qu'on appelle l'enquête de personnalité sur.
Oui, absolument, l'enquête de curriculum vitae.
Oui.
Et ça m'a occupé pendant un certain temps.
Voilà. Et alors, je disais tout à l'heure, ce sont des auditeurs, vous savez, qui peuvent toujours nous contacter sur RTL.fr en disant vous devriez reparler de cette affaire parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Pour vous, en tant qu'ancien policier, elle vous a marqué cette affaire ?
Bien sûr, d'abord parce qu'elle m'a occupé pendant plusieurs années, comme mes collègues, et puis parce que c'est une affaire qui sortait de l'ordinaire, ça nous sortait un peu des milieux criminels, des règlements de compte parisiens ou des affaires de stupéfiants. Ça nous a amené à enquêter dans des milieux les plus divers.
Oui.
Donc c'était pour nous, bien évidemment, passionnant.
Alors on va revenir sur la peinture de ce milieu, d'ailleurs, parce que c'est très people, hein, tout ça. Un avocat connu qui partage avec son épouse, Dari Boudboul, qui était la première femme à gagner un tiercé en tant que femme jockey. Il partage la passion du cheval. Une belle-mère qu'on va découvrir au fil de l'émission aussi, qui est avocate, qui a l'air de gagner extrêmement bien sa vie. Enfin bref, on a l'impression d'être dans un monde un petit peu privilégié comme ça, et on se demande, mais comment est-il possible dans un milieu comme celui-là qu'un meurtre ait lieu, et surtout le meurtre de cet homme dans des conditions qu'on va rappeler tout de suite. Maître Jacques Perrault, avocat parisien, ami intime du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, donc mari, on l'a dit, de Dari Boudboul, et un soir, il descend le 27 décembre 1985, l'escalier de son immeuble de l'avenue Georges Mandel. Voilà, il veut sortir. Il avait rendez-vous pour dîner, mais ce dîner a été annulé, on y reviendra tout à l'heure. Sur RTL, écoutez le récit de Jean-Benoît Vion qui décrivait les circonstances de cette affaire dont toute la France allait bientôt parler.
Et les policiers se posent beaucoup de questions. Ils ont bien peu d'éléments pour l'instant, car il n'y a eu absolument aucun témoin de cet assassinat. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'hier soir, à 18h30, Jacques Perrault a quitté son cabinet, situé au 3e étage du 29 de la rue Georges Mandel. C'est un immeuble très chic du 16e arrondissement de Paris. Il s'est rendu au 2e étage, au domicile de ses parents. C'est là qu'il habite depuis quelques semaines, depuis qu'il est séparé de son épouse Dari Boutboul. Et là, il s'est changé et descendu à pied. Au 1er étage, sur le palier, il a été tué. Une voisine a entendu 3 coups de feu. Il a reçu au moins une balle dans la tête. La voisine a découvert son corps, mais n'a vu personne s'enfuir de l'immeuble. Jacques Perrault était âgé de 38 ans. Il exerçait son métier d'avocat dans un cabinet prospère. Il était spécialisé dans les affaires fiscales et hippiques, mais il n'avait aucun dossier vraiment brûlant. Un avocat sans histoire, m'a dit ce matin l'un de ses associés. Jacques Perrault était un garçon souriant, charmant, agréable, dit ses amis. C'était un ami d'enfance de Laurent Fabius, le Premier ministre, amitié qui ne s'est jamais altérée au fil des ans. D'ailleurs, Laurent Fabius est allé rendre visite avec son épouse cet après-midi aux parents de l'avocat durant 45 minutes.
Voilà donc cette nouvelle voilà, qui tombe sur les radios. Évidemment, ça va faire la une de la presse, les télés, étant donné la qualité des personnages qui sont mis en cause dans cette affaire. On va beaucoup en parler. Et là, on va faire une première pause dans l'émission. Et tout de suite après, avec Serge Raffi, justement, on va dire ce que représentait pour la France de l'époque ce petit monde qu'on pourrait qualifier de privilégié.
Jusqu'à 21h sur RTL,
Jacques Pradel,
l'heure du crime.
Christian Flèche, qui dirigeait une section de la brigade criminelle à l'époque, en 1985. Serge Raffi, le journaliste qui a écrit ce livre, dont je vous recommande très vivement la lecture, vraiment la veuve. Et puis Catherine Driguet, elle était inspecteur, elle, dans une des équipes de la crime, et elle a eu à s'occuper de cette affaire pendant plusieurs années. Alors je reviens d'ailleurs à vous tout de suite, Christian Flèche. Il y a cet assassinat. Évidemment, il y a une enquête, il y a pas de témoins, bon, etc. Il y a des témoins auditifs qui ont entendu les coups de feu. Mais il va y avoir un certain nombre d'éléments recueillis par les enquêteurs tout de suite qui vont vous poser des questions.
Hein. Oui, vous l'évoquez, le meurtre se passe dans le 16e arrondissement. C'est un endroit très chic, mais là, on est quand même surpris quand on arrive sur place. C'est que la voiture de la victime a son pneu crevé, pour bien montrer qu'à ce moment-là, on veut l'immobiliser de façon à ce que le tueur puisse, s'il l'avait loupé dans l'escalier, le récupérer ailleurs.
Ça ressemble
là,
à un guet-apens.
On est dans un guet-apens, on est dans des méthodes qui sont plutôt des méthodes de voyous et plutôt inhabituelles dans la partie de Paris où ça se passe.
Mais alors, en revanche, Jean Benevian, je crois, le précisait, le calibre de l'arme n'est pas a priori celui des voyous, ou c'est une vue de l'esprit ?
Oui, pour l'instant, sur les constatations, je ne suis pas sûr que votre reporter de l'époque était capable de faire l'autopsie immédiatement sur place.
Non, mais je crois qu'on a dit que c'était des balles de 22 Lorif.
Oui, en tout cas, ce n'était pas un calibre, gros calibre.
De tueur à gage, quoi, voilà. Alors, Serge Raffi, on va reprendre tout ce qui s'est passé au cours de l'enquête, parce qu'il y a eu rebondissement sur les personnages, mais déjà, à la base, cette histoire, elle nous dit quoi ?
C'est un crime, c'est vrai, ça a été dit, des beaux quartiers parisiens. Mais c'est plus qu'un crime des beaux quartiers, c'est un crime de la jet set. On est vraiment dans un univers incroyable, c'est-à-dire vous avez d'un côté, on peut dire quelqu'un qui, même s'il n'est pas un politique, il est quand même le meilleur ami du Premier ministre de l'époque. Donc on peut penser...
L'ami d'enfance,
bien sûr. Ouais, c'est celui qui a été son témoin de mariage. Mm-hmm. Et donc ils ont un lien très fort. Et certains, d'ailleurs les policiers au début, quand l'affaire sort... Évidemment, ça a un poids incroyable sur la pression qu'ils ont à ce moment-là pour essayer de régler cette histoire au plus vite, parce qu'on a toujours peur dans ces cas-là. La hiérarchie, elle dit toujours attention, là, vous êtes sur un dossier hyper brûlant, faites attention. Donc, il y a déjà des gens qui sont sur des pistes de Jacques Perrault étant mêlé dans des affaires de vente d'armes à l'Iran, etc. On a évoqué des pistes un peu saugrenues, mais qui quand même étaient là, elles tournaient. Et puis il y a Dari Boutboul, cette espèce de princesse des hippodromes, et aussi princesse des radios. Elle a été quand même une des stars, des grosses têtes de RTL à l'époque. Elle était partout, elle voulait faire de la chanson, était une espèce de... C'était vraiment une personnalité publique, un peu vibrionnante, un peu grande gueule d'ailleurs, correspond bien à l'émission à l'époque. Et si vous voulez, c'était très lourd tout d'un coup ce meurtre, parce que ça impliquait énormément de choses.
Et Dari Boudboul, qui va être rejointe deux jours après, le 29 décembre, par le journaliste d'RTL Jacques Labib. Écoutez sa réaction après la mort, donc particulièrement violente, de son mari.
C'est tellement monstrueux, tellement aberrant, tellement absurde, c'est tellement gratuit. C'est ce que je pense, moi, que c'est absurde, gratuit, mais c'est sûrement pas gratuit. Vous savez, il y a trois façons de tuer les gens, à mon avis. Soit c'est pour l'argent, mais c'était pas le cas, il en avait pas. Soit c'est pour la vengeance, mais dans ces cas-là, on ne tue pas de la façon dont il a été tué. Ça a été fait par un grand professionnel. Soit c'est pour faire taire les gens. Et alors, le faire taire, pourquoi ? Il devait savoir quelque chose, certainement. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il savait, qu'il voulait le faire taire, pour cacher quoi pour...
Voilà, donc là, on a l'air d'être dans l'expectative partout, mais évidemment, pour la police, là, je m'adresse aux deux policiers, on travaille, comment gère ce genre de...
Et comme le disait Serge Raffi, évidemment, c'est une affaire qui était très sensible, dans la mesure où elle touchait l'entourage proche du Premier ministre de l'époque. Mais surtout, la presse s'emparait de toutes les pistes possibles et nous en inventait à peu près régulièrement qu'on était obligé d'anticiper ou de vérifier immédiatement quand on les connaissait pas. Donc, on a eu effectivement le rôle de l'avocat Jacques Perrault dans des affaires de vente d'armes. On a eu le rôle de l'avocat Jacques Perrault dans l'affaire du Rainbow Warrior, qui était une affaire qui était d'actualité à l'époque.
Oui, 85.
Et manifestement, le type de clientèle 85. Qu'il avait ne justifiait pas du tout qu'on le retrouve dans d'autres affaires un peu plus compliquées. Il aimait beaucoup les chevaux. Il avait
et les femmes aussi.
Catherine, je confirme, c'était le cas. Et donc tout ça nous faisait des pistes très importantes, puisque il y avait à la fois les pistes dans ses dossiers d'avocat, il y avait les pistes dans ses conquêtes féminines, et puis il y avait les éventuelles pistes que la presse voulait bien nous trouver, qu'il fallait aussi qu'on vérifie.
Et vous vous souvenez à quel moment vous découvrez, en tant que policier enquêteur, que Jacques Perrault menait depuis quelque temps une enquête sur sa belle-mère?
Je crois que ça a été dit assez rapidement par certains de ses amis proches, parce qu'il s'en était ouvert à ses amis en disant qu'il avait, bien évidemment... il cherchait et il a découvert par hasard que son beau-père était toujours en vie.
Ah oui,
et partant de là, c'est un de ses collègues, je crois, un autre avocat qu'il a rencontré dans les couloirs du palais, qui lui a dit « Mais ton beau-père, il vit toujours. Ouais. » Donc partant de là, il est allé voir ce beau-père et je crois qu'après, par la suite, évidemment, il a commencé à chercher. Et il a découvert que sa belle-mère n'était pas forcément cette avocate internationale qu'elle prétendait être, et qu'elle avait des activités assez particulières.
Oui, il avait découvert entre autres qu'elle avait été radiée du barreau en 1981 pour une affaire de corruption et de détournement de fonds, on verra ça plus complètement tout à l'heure, et évidemment, elle est interrogée sur le sujet par un journaliste d'RTL, et vous allez voir, elle ne nie pas du tout les découvertes faites par son gendre, elle s'explique même sur cette radiation.
Quand j'ai été radiée du barreau pour un certain dossier que Jacques avait trouvé, je ne me suis pas défendue. Et tous les membres du Conseil de l'Ordre qui étaient présents, ils sont sortis, on dit, elle couvre quelqu'un, c'est pas possible, on n'a jamais vu quelqu'un faire une aussi mauvaise défense. Je n'avais rien à dire parce que je ne pouvais rien dire. Si j'avais dit quelque chose, je risquais gros. Si Jacques m'avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit, vous touchez à de la dynamite, vous ne touchez pas. Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, je pense que la police saura suivre du regard, il faut aller rechercher. Mais moi, de toute façon, ce dossier est classé. J'ai donné une parole, je ne dirai rien. Même quitte à devoir passer 20 ans de ma vie à fleurer mes registres, je serai à l'abri au moins, mais je ne parlerai pas.
On ne peut pas être plus clair. Alors maintenant, est-ce que c'est un mobile possible de supprimer quelqu'un qui a découvert une radiation d'un avocat quelques années auparavant? On va parler de tout cela dans un petit instant avec mes invités après une pause.
Jacques Pradel,
l'heure du crime.
Alors nous sommes en compagnie de Catherine Driguet, ancienne inspectrice à la brigade criminelle à l'époque, donc en 1985, Christian Flèche qui lui dirigeait une section de la brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres à Paris, qui a mené cette enquête, et Serge Raffi, donc qui lui est l'auteur, et on va y venir un petit peu plus longuement maintenant, de La Veuve, ce livre paru en 94 chez Fayard, et qui dit tout, absolument, qui raconte tout, qui nous fait comprendre qu'on est dans une affaire absolument, absolument incroyable. C'est-à-dire que vous donnez toutes les clés pour comprendre alors, qui est cette femme.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de tiroirs dans cette affaire que c'est très compliqué en quelques minutes de la raconter. Pour aller vite, première étape, une jeune provinciale qui rêve de devenir magistrate, qui rate son concours à la magistrature et qui devient avocate. Elle est récupérée par une espèce de cabinet d'avocats un peu étrange, avec un homme qui ne plaide jamais, elle-même ne plaide jamais. Et elle va s'occuper uniquement d'une affaire, les missions étrangères. Donc ils sont donc une congrégation
de l'Église,
du Vatican qui au départ était chargée au début du XXe siècle. Là, on est en 1920.
D'aller évangéliser,
mais surtout d'acheter des propriétés. Mais c'était des grands capitalistes de la parole de Dieu, si vous voulez. Ils étaient richissimes. Et donc à une époque, ils avaient un trésor de guerre qu'il fallait absolument d'une certaine manière dispatcher pour qu'il ne soit pas récupéré par des concurrents, les jésuites, etc. Il y avait des guerres de congrégation extraordinaire au sein de l'Église. Et donc, elle a servi, si vous voulez, de prête-nom presque à une incroyable opération, je dirais, de blanchiment ou de noircissement en fonction des moments de cet argent un peu étrange des missions étrangères. Oui. Elle est devenue richissime parce qu'elle a monté effectivement une fausse procédure pendant 10 ans sur une histoire d'héritage d'une famille, etc. C'était totalement loufoque, avec aucun document judiciaire, uniquement des petits papiers comme ça sur des notes de frais et des documents judiciaires qui n'existaient pas. Donc elle a touché des dizaines de millions de francs à l'époque. Elle est devenue richissime grâce à cette opération absolument absurde quand on réfléchit, sauf s'il y a autre chose derrière. Elle a pu s'acheter un appartement avenue Henri Martin. Elle est devenue une espèce de grande bourgeoise qui fréquente les hippodromes, qui achète des chevaux à sa fille.
Bien sûr,
évidemment, c'est pas elle qui va les acheter parce qu'elle est très habile. Peut-être que Monsieur Flèche et Madame Driguet en parleront davantage, mais c'est une affabulatrice extraordinaire, une manipulatrice extraordinaire et une femme qui a une capacité à tromper son monde, aussi bien ses amis, sa famille, que le fisc et que même les enquêteurs parfois ou les juges. Donc c'est ce personnage-là que quelque part le juge à l'époque, c'était le juge Verlaine qui a dû démarrer l'affaire, a en face de lui et c'est quelqu'un qui est très insaisissable.
Alors, on est au cœur d'une escroquerie, Christian Flèche.
Alors, l'affaire des missions étrangères, c'est une véritable escroquerie qui n'a pas abouti devant la justice, sans doute parce que les missions étrangères n'avaient pas envie qu'on montre que les dons qu'on leur faisait étaient dépensés de cette façon-là. Donc, je crois qu'il y a eu un passage entre la radiation de l'ordre et le passage devant la justice qui ne s'est pas fait volontairement, sans doute, à ce moment-là.
D'accord, mais pour comprendre, il y avait un circuit financier vers la Suisse, avec des comptes numérotés en Suisse.
Alors, d'abord, l'argent arrivait chez Madame Boutboul, qui ensuite la faisait repartir dans les comptes en Suisse. L'argent arrivait, manifestement, de ce que j'ai compris des pères, ça arrivait par des valises portées par des pères dans les trains entre la Suisse et la France. Et ça se faisait tout naturellement. Et ensuite, il y avait la façon de l'utiliser que Catherine pourra évoquer.
Vous avez travaillé là-dessus, Madame Driguet ?
Oui, j'ai travaillé là-dessus. En fait, les missions étrangères avaient un bureau à Genève. Ils en avaient d'ailleurs un à Londres, parce qu'ils faisaient des placements en bourse pour, évidemment,
faire prospérer l'argent qui était
destiné à la propagation de la foi. Et donc, Madame Boutboul allait en Suisse parce que son interlocuteur premier était le prêtre qui donc s'occupait de la congrégation de Genève. Et donc, c'est lui qui était censé, parce que c'était plus facile, bien évidemment, pour payer les frais de ce procès, de passer par la Suisse. Donc, elle ramenait de l'argent de Suisse quand elle y allait. Et donc, évidemment, elle ne payait pas d'impôts puisque l'essentiel de ses dépenses était fait en espèces.
D'accord.
Et donc, elle ne déclarait rien. Et comme elle avait dit au fisc qu'elle avait eu 3 cancers et qu'elle ne pouvait pas travailler, elle vivait en écrivant, en faisant, si vous voulez, des lettres, des enveloppes, vous savez, sur son lit, en donnant quelques cours de piano.
D'accord.
Et le percepteur qui lui avait fait un contrôle avait d'ailleurs conclu que cette malheureuse, c'était un scandale de la contrôler, vu son état de la modicité de ses ressources.
Non, on a même pensé à une époque qu'elle avait envoyé quelqu'un d'autre voir l'inspecteur des impôts.
Oui, c'est possible.
Ah,
oui.
Ce que dit Catherine, c'est que l'examen du contrôle fiscal par l'inspecteur principal des impôts, c'est la remarque que l'inspecteur avait faite, qu'il était anormal qu'on ait contrôlé cette femme-là, dans l'état où elle était.
Ouais. Alors, on a donc cette affaire, Serge Raffi, qui concerne les missions étrangères, avec vraisemblablement une complicité de bon père, que ça arrange, parce que ça justifie, ce qu'on paye à cette femme justifie finalement l'emploi d'un argent dont on n'a pas envie de dire qu'il est finalement placé en Suisse, quoi, en gros.
Oui, parce qu'elle a dû servir, elle a dû elle-même... Ouais. Elle s'est servie elle-même, si vous voulez, dans la caisse, si je puis dire. Ouais. Mais elle devait aussi dispatcher cet argent pour d'autres causes. Elle se dit elle-même agent du Vatican, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que toute sa stratégie de défense, on l'a entendu tout à l'heure, c'est au fond, la seule personne qui est au-dessus de moi dans cette affaire, c'est Dieu. C'est ça qu'elle nous dit, c'est le Très-Haut, c'est le seul qui est capable de me juger. Donc elle est là-dedans. Ouais. Cette affaire-là, elle aurait pu prospérer tranquillement pendant des années si Jacques Pedro n'était pas entrer en scène. Parce que le problème de Madame Boutboul, c'est que voilà un homme, un, qui est l'ami intime d'un Premier ministre, deux, qui est avocat, et donc, quelque part, qui est le mari de sa fille, et c'est un gêneur pour elle, parce que c'est quelqu'un qui peut justement, éventuellement, découvrir le pot rose, la vraie histoire de cette femme. Oui. Et c'est ce qui va arriver. Et dès le début, dès que Dari Boutboul est avec Jacques Perrault, Madame Conce Boutboul n'aime pas, elle va tout faire pour que ce couple ne dure pas. Elle va même essayer à un moment donné de proposer à un ami ou le fils d'une amie d'aller séduire Dari Boutboul pour qu'elle se détourne de Jacques Perrault. Elle avait une vraie stratégie pour que ce couple n'existe jamais.
Et alors, c'est très intéressant. Ce qui m'a frappé en relisant votre livre, Serge Raffi, c'est que Dari Boutboul et sa mère sont tout de suite interrogés, mis en garde à vue au Quai des Orfèvres. Enfin, c'est pas rien, j'imagine. Non,
ça va pas aussi vite que ça. Ah. Donc évidemment, on les interroge.
Ils sont des victimes au début.
Oui, elles sont des victimes. Bon, évidemment, on a quelques doutes et même si ce sont des victimes, on les surveille. Dari est tout à fait naturelle et on peut penser qu'elle a rien à cacher. Et c'était pas tout à fait le cas de la mère qui a très vite compris qu'on la surveillait. Et donc c'est là où on s'est réunis, je me souviens, un jour dans un bureau, c'est peut-être toi d'ailleurs Catherine qui a eu l'idée, c'est-à-dire qu'on a suivi la mère et on a vu qu'elle allait régulièrement dans une charcuterie.
Ah d'accord, dans cette charcuterie, qu'est-ce qu'il y avait?
Et donc on s'est mis dans l'idée de mettre sur écoute la charcuterie.
Oui. Et on n'a pas eu tort, Catherine.
Non, parce qu'évidemment, grâce à ces écoutes, on connaissait bien évidemment toute la vie de la charcutière, mais on a appris que très régulièrement, elle appelait sa famille, et elle appelait sa cousine qui était aux États-Unis, qui en fait lui a beaucoup servi de prête-nom. La malheureuse cousine, qui n'était qu'une secrétaire très peu fortunée, était officiellement propriétaire des chevaux, était propriétaire de sa voiture et intervenait dans donc c'était son prête-nom.
Rentrée d'argent. Oui,
voilà, donc elle appelait sa cousine, elle prenait même rendez-vous chez le coiffeur sous un faux nom du téléphone de la charcutière. Enfin, elle appelait sa famille, ces conversations n'étaient pas extraordinaires, mais surtout ce qui a fait, il y a quand même eu des conversations que nous n'arrivions pas dont l'interlocuteur n'était pas identifiable et qui par la suite nous a bien sûr mené à Bruno Dassac.
Alors voilà, ça, si vous avez prononcé le nom, c'est le rebondissement dont on va parler dans quelques instants.
Mais ce qui était aussi drôle, comme le disait Catherine, c'est que la cousine qui travaillait pour le consulat de France à New York, je crois, comme traductrice, était censée être propriétaire d'une écurie de chevaux. Moment donné, le scandale était quand même là et la société d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et recueillir les observations de la cousine qui donc s'est retrouvée avec une invitation à venir s'expliquer en France sur la propriété de ses chevaux. Et donc là, c'était le deuxième truc un peu amusant. C'est qu'évidemment, on s'est dit que la cousine n'allait pas arriver directement depuis Paris, puisqu'on a compris après que la nounou du fils de Larry Boutboul lui avait donné des instructions par téléphone, de façon à savoir ce qu'elle devait répondre à la police.
Ah oui, d'accord.
Et donc, comme elle n'est pas arrivée directement, on s'est mis dans l'idée qu'elle arriverait indirectement à Paris et on a surveillé les vols qui étaient entre New York et Bruxelles.
Voilà,
Elle est arrivée par Bruxelles, à la gare du Nord. Et évidemment, on s'est arrangé pour que nos collègues belges nous indiquent dans quel train elle était.
Et à quoi elle ressemblait.
Parce que
nous ne la connaissions pas.
Et on l'a récupérée à la sortie à la gare du Nord. Et là, elle nous a raconté ce qu'elle devait nous raconter, mais comme elle avait des problèmes de mémoire, elle avait tout noté en sténo.
D'accord.
Et c'était la secrétaire de la brigade criminelle de l'époque qui était la seule à être capable de lire la sténo, qui nous a expliqué je suis propriétaire de chevaux, etc. Ouais. Enfin, c'était assez drôle.
C'était assez drôle. Ça veut dire que vous avanciez quand même dans l'enquête, mais en même temps, il manquait des éléments encore évidemment très importants. On s'arrête là, on fait une pause et on se retrouve dans un instant.
Jacques Pradel.
L'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors Serge Raffi, je rappelle que votre livre, d'ailleurs, vous l'aviez intitulé « La veuve », ça tournait autour de la personnalité exceptionnelle de cette femme qui est veuve d'un mari bien vivant, qui raconte apparemment beaucoup d'histoires à beaucoup de monde, qui s'en sort très bien d'ailleurs.
À tout le monde.
Pour se servir aussi, pour avoir un train de vie finalement extraordinaire, pas payer ses impôts, etc. Mais quand l'enquête criminelle qui rôde autour d'elle l'approche, elle continue à raconter des histoires alors ?
Madame Boutboul, c'est la Matahari des bénitiers. Elle a une capacité à comprendre les enquêtes, à balader les flics dès qu'elle peut les balader, elle les balade. Rappelez-vous par exemple qu'à un moment donné, elle sait qu'elle est sur écoute tout le temps. Donc c'est vrai qu'elle monte cette opération de dérivation avec une charcutière où elle peut aller téléphoner régulièrement, qui permettra justement d'aller plus loin dans l'enquête. Mais par exemple, quand elle téléphone à sa fille, elle oriente l'enquête, mais alors d'une manière extraordinaire, sur le meurtre des hippodromes. C'est-à-dire qu'au fond, Jacques Perrault, selon ce qu'elle raconte à sa propre fille, c'est la mafia des hippodromes qui a tué Jacques Perrault parce qu'il était en train d'enquêter sur des combines pour les courses, etc. Il voulait justement que la vérité éclate. Donc surtout, n'en parle pas, c'est dangereux, etc. Donc elle en rajoute toujours un peu pour aiguiller les enquêteurs dans la piste qui lui plaît. Et à chaque fois, elle fait la même chose. Oui. Donc, elle part d'histoires fausses, mais en même temps, elle trouve toujours le moyen de raccrocher une part de vérité. Donc, c'est toujours très compliqué de la coincer parce que, elle, quand je dis Matahari, on a l'impression parfois qu'effectivement, elle a quelque chose d'un agent. C'est-à-dire qu'elle est capable, comme les agents de renseignement, de changer d'identité. Elle a une dizaine d'identités. Elle s'appelle Madame Norfolk. Elle a été parente aussi avec Valéry Giscard d'Estaing ou avec Poniatowski, etc. Ouais. Elle invente des histoires à bracadabrante, mais avec cette espèce de naturel, cette espèce de ton tellement sûr d'elle que les gens la croient. C'est une affabulatrice professionnelle, mais qui a des allures de vieille dame digne.
Voilà. Et puis alors, il va y avoir ce rebondissement qu'elle en faisait allusion tout à l'heure. On va écouter un document RTL à ce propos. 7 juin 1989, on est 4 ans donc après l'assassinat de Jacques Perrault, et on apprend qu'un autre assassinat, mais qui remonte à l'année d'avant, en 1988, est en train de faire rebondir l'enquête sur l'assassinat de l'avocat. Darry Boutboul et sa mère vont être entendus alors par la police judiciaire de Rouen au sujet du meurtre d'un certain Bruno Dassac, un personnage peu recommandable, connu comme on dit des services de police, qui avait des liens avec la famille Boutboul. Écoutez l'analyse de notre correspondant à Rouen, Jacques Ardouin.
Darry Boutboul et sa mère Elisabeth sont arrivées hier peu avant 20h à l'hôtel de police de Rouen où elles ont passé la nuit en garde à vue. Ce matin, le juge d'instruction du Havre, Michel Bollier, les entendra au sujet du meurtre de Bruno Dassac. L'affaire remonte au mois de mai de l'année dernière. Sur les rochers du port de Plaisance du Havre, on retrouve le corps sans vie de Bruno Dassac, 52 ans, un représentant de commerce. Au début, les enquêteurs retiennent la thèse de l'accident ou du suicide, mais 3 jours plus tard, la Volvo de Dassac est incendiée volontairement. On reprend l'enquête, une autopsie est pratiquée et on s'aperçoit qu'il a été en réalité exécuté d'une balle de 357 Magnum dans la nuque. Grand, costaud, d'Assac qui aurait été lié au clan Zemmour, fréquentait avec assiduité les cercles de jeu, les casinos ainsi que le milieu des courses hippiques, milieu dans lequel il comptait beaucoup de relations. Sur son carnet d'adresses figuraient beaucoup de noms, certains célèbres comme celui de l'ancienne femme jockey.
Et alors, Catherine Driguet, on retrouve la voix de cet homme, Bruno Dassac, sur les écoutes téléphoniques de la charcuterie.
En réalité, dans le carnet d'adresse de Bruno Dassac, les enquêteurs de Rouen ont trouvé le numéro de téléphone de la charcutière. Ils sont allés la voir en lui demandant si elle connaissait cet homme. Et ça ne lui disait rien. Mmh. Et par la suite, lorsque nous sommes allés la voir, elle nous a dit « Ah oui, mais il y a des enquêteurs qui sont venus, mais je ne sais plus où en France. » Donc, on a fait des recherches et nous avons découvert que nos collègues de Rouen s'intéressaient au même personnage. Donc, nous avons fait venir la mère de Bruno Dassac, et elle a reconnu la voix de son fils. Donc, nous avons compris que l'interlocuteur que nous n'avions pas identifié, avec lequel Madame Boutboul parlait de façon assez mystérieuse, mais parlait aussi de temps en temps d'argent, enfin de remise d'argent, c'était le fameux Bruno Dassac. Oui. Et c'est ce qui nous a permis de faire le lien entre les deux affaires.
Et là, Christian Flech, on change d'échelle.
Mais moi j'ai changé de service aussi. Donc je n'étais plus à la brigade criminelle à ce moment-là. Donc je laisse la main à Catherine qui pourra vous raconter la suite.
D'accord. Là, on se dit, mais peut-être que cet homme-là a été le bras armé d'un complot visant à tuer cet malheureux avocat, alors.
En réalité, nous nous sommes rendus compte que Bruno Dassac fréquentait les cercles de jeux parisiens. Et qu'à l'examen de ses entrées et sorties des salles de jeu, le jour du meurtre, il était à Paris. Nous n'avons pas réussi à déterminer s'il était sur les lieux du crime, à l'heure du crime, mais nous savions, grâce à cela, qu'il était à Paris et qu'il n'était pas très loin. Et comme à plusieurs fois dans la soirée, il est rentré et sorti, on a imaginé soit que c'était lui, soit qu'il avait un complice.
Et c'était... Et c'était un grand joueur aussi.
Absolument, c'était
dans
un
les cercles
joueur.
Des hippodromes aussi. C'était quelqu'un qui fréquentait.
Il était connu dans les casinos de Deauville et de Trouville.
Donc le lien avec Madame Boutboul était aussi forcément avec les chevaux. Encore une fois, on a vraiment un monde du cheval qui fait que Bruno Dassac, c'était un demi-sel, un militant RPR un peu foutraque, ancien du SAC, etc. Mais qui était très vantard et qui avait toujours besoin d'argent. Et effectivement, le lien, il s'est fait, ce que vous dites, là où vous avez réussi à vraiment avoir des preuves flagrantes, c'est quand le chauffeur de taxi de Madame Boutboul a craqué.
Bien sûr, et aussi, lorsque nous avons pu réussir à établir l'existence d'un compte de Madame Boutboul en Suisse, à l'examen de son compte, nous avons vu des sorties d'argent que nous avons pu mettre en lien avec Bruno Dassac, c'est-à-dire qu'à deux reprises, Madame Boutboul a envoyé de l'argent, une somme assez conséquente, je n'ai plus le montant en tête, sur le compte de Bruno Dassac.
C'est ça.
Et le jour du meurtre, Bruno Dassac n'avait pas d'alibi, le jour du meurtre, soir du meurtre.
Non, il était important. À Paris, absolument. Alors qu'il habitait au Havre.
D'accord. Donc, même si vous n'étiez plus dans l'affaire Christian Flech, là, cette femme, elle se retrouve au cœur de deux affaires criminelles, plus les confidences dont vient de parler Serge Raffi d'un chauffeur de taxi. C'est très important, cette histoire.
Oui, parce qu'il avoue que Madame Boutboul lui a demandé quand même si éventuellement il ne connaissait pas quelqu'un qui pourrait faire le sale boulot sur Jacques Perrault.
Voilà, c'est ça. Donc là, est-ce que ça suffit pour mettre quelqu'un en examen, là, pour...
Alors, à l'époque, c'était un cul de paix. Mais... Ça ne change rien. Non, c'était une accumulation. Déjà, dès le départ, on avait envie, et on discutait avec le juge d'instruction, M. Verlaine, on avait envie de mettre Madame Boutboul en garde à vue pour pouvoir avoir les moyens de l'interroger sur tous les éléments que dès le départ, on trouvait troublants. Au fur et à mesure, tout ça s'est accumulé. On l'avait mise en garde à vue, d'ailleurs, avant le lien avec l'affaire Dassac, où elle nous avait, pendant 48 heures, raconté une histoire, comme le disait Serge Raffi, qui avait un fond de vérité, mais qui était complètement signe d'une affabulatrice, vraiment très forte. Quand on voit ces rapprochements, quand on voit ces mouvements financiers, quand on voit le fait qu'elle a demandé à son chauffeur de taxi habituel si elle trouvait quelqu'un pour faire une correction à son gendre, tout ça faisait que ça s'accumulait. Donc on est dans les indices graves et concordants qui peuvent justifier une inculpation.
Une inculpation, voilà, et puis ensuite d'être déféré devant une cour d'assises. C'est ce qui va se passer plus tard, le 2 mars 1994. Et Marie-Elisabeth Consboudboul a alors 69 ans. Elle est accusée officiellement d'avoir commandité l'assassinat de son gendre, Jacques Perrault. La suite dans un tout petit instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors, il faut dire, et là je m'adresse à la fois à mes invités et à ceux qui nous écoutent, c'est que cette histoire est tellement multiple et tellement riche que là, on a raconté une petite partie, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui entrent donc dans cette affaire, pour jouer des rôles non négligeables, n'est-ce pas Catherine Driguet? Parce que là, il y a le travail de police qui a été fait, et on n'en voit pas quelqu'un non plus en cour d'assises sur un dossier vide, on est bien d'accord?
Absolument.
C'était quand même assez solide, votre dossier.
Oui, mais on a peut-être pas évoqué aussi le moment où le chauffeur de taxi a reconnu Bruno Dassac. Oui. Un jour, il emmenait Madame Boutboul, elle s'est arrêtée, elle lui a remis une enveloppe dans laquelle, évidemment, c'est personne ça. N'a su ce qu'il y avait, mais oui. Il y avait quand même un certain nombre de choses.
Quelqu'un qui dit, elle m'a demandé éventuellement voilà. de trouver des tueurs à gages, puis qui ensuite dit un jour, elle a donné une enveloppe à quelqu'un, ça fait...
C'est vrai que c'est dossier...
assez accablant. Quoi.
Voilà. Mais ouais. C'est un dossier tout en subjectivité. C'est... Oui.
Un mot, la grande énigme de cette affaire, elle repose sur quelque chose d'assez simple, c'est qu'au fond, le présumé assassin de Jacques Perrault a lui-même été assassiné. Donc c'est pareil idiot de dire ça, mais c'est quand même un sacré problème pour les enquêteurs et pour les magistrats qui travaillent sur le dossier. Voilà. C'est qu'au fond, on n'a jamais pu le confondre puisqu'il n'est plus là.
Voilà.
Donc
et
ça, c'est un sacré problème.
Dans cette affaire, il n'y aura pas d'aveu puisque Marie-Elisabeth Consboudboul a toujours nié toute responsabilité dans cette affaire, en disant « c'est pas moi ».
Tout à fait, hein, elle est allée au procès dans ce flou absolument. Ouais.
Et ça, je sais pas si ça vous évoque des souvenirs, si vous pouvez en parler d'ailleurs, de garde à vue ou d'interrogatoire, Christian Flesch, mais c'est quand même pas banal non plus.
Moi j'ai des souvenirs de cet interrogatoire de Madame Boutboul, où elle est restée presque 48 heures avec nous, et où elle aurait pu rester 8 jours en nous racontant son histoire, et où, si on s'était laissé prendre, on aurait noirci des pages et des pages sur rien.
Mais quand
sur rien de vérifiable, d'ailleurs.
On donne aussi. Des gens des éléments aussi accablants que vous avez demandé à quelqu'un de trouver un tueur à gage, ou vous avez donné une enveloppe à quelqu'un qui, par la suite, a été assassiné, qui aurait pu être ce tueur à gage.
Alors, ça c'est pas ce que la police a pu, puisque la police avait déjà épuisé son temps de garde à vue quand on a trouvé des éléments supplémentaires, donc ça c'était le rôle du juge d'instruction. Mais le son que vous avez passé au départ, où elle explique qu'elle ne peut pas tout dire, qu'il y a des choses, etc., qu'elle est prête à faire 20 ans de prison, c'est le schéma de défense habituel qu'elle avait.
Ouais. Alors, elle a été condamnée à 15 ans de prison, le 25 mars 1994, et... on a retrouvé un document, elle a fait 9 ans de prison sur cette condamnation à 15 ans, elle va passer 9 ans derrière les barreaux. En décembre 1998, elle obtient un régime de semi-liberté, et le 6 janvier 1999, elle est l'invitée d'une émission sur RTL. L'émission s'intitule « J'ai mon mot à dire », elle est présentée par notre confrère Jean-Yves Chaperon. Et là encore, vous allez l'entendre, elle affirme, qu'elle a été faussement accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, et Jean-Yves Chaperon, de son côté, lui, le journaliste, lui pose pourtant très directement la question que tout le monde se pose.
Pensez-vous que l'homme qui a tué Jacques Perrault est aujourd'hui vivant et libre ?
Je pense que oui.
Qu'est-ce qui vous donne cette conviction ?
Je ne sais pas, je l'ai toujours eue. Et j'estime qu'il faut quand même que ce soit trouvé. Car ce malheureux garçon a quand même été tué. Ça n'est pas moi qui l'ai fait, ni même qui l'ai commandité. Donc il y a bien il y a peut-être deux personnes à trouver, un commanditaire et celui qui l'a fait. Ou alors carrément celui qui l'a fait. Mais j'estime qu'il faut le trouver. Non pas par esprit de vengeance ou de haine, hein, pas du tout. Parce qu'alors là, je n'ai jamais eu cette mentalité. Mais parce qu'il faut que la vérité soit faite, quand ça serait que pour mes petits-fils. Je crois qu'en effet, on a tenté de me faire porter le chapeau, comme on dit.
Alors là, Serge Raffi, bon, vous avez passé des mois à écrire ce livre, avec tout ça dans la tête, quand même.
On ne peut pas s'empêcher d'être fasciné par la personnalité de cette femme.
Vous êtes dit à un moment, et finalement, ici, elle n'avait absolument pas commandité...
Les preuves formelles, les preuves définitives, personne ne les a. On a un faisceau de présomptions, un tissu de convictions, comme on dit, mais on n'a pas la preuve absolue, de toute manière, de tout ça. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle parle aux policiers en leur disant carrément, il y a des interrogatoires où elle leur dit carrément, j'adore vous balader, j'adore me promener avec vous. C'est-à-dire qu'elle aime inventer, elle est dans un, comme elle est mythomane, quelque part, elle s'amuse, elle est dans un jeu de pistes avec les policiers qui est absolument extraordinaire. Et même avec sa juge d'instruction, la dernière, Madame Berthelat Geoffroy, à un moment donné, elle lui dit... À la fin, je crois, de l'instruction, tout à fait à la fin, quand elles se disent au revoir, elle lui dit, vous savez, ça, quand même, cette histoire, mon histoire, ça ferait un film formidable. Et Madame Consboudboul lui dit, ah ben tiens, vous, dans votre rôle, je verrais bien Catherine Deneuve. Pour Dari Boudboul, je crois qu'elle avait dit Marlène Jobert, ou je ne me souviens plus exactement. Et la juge lui demande, et vous, Madame Boudboul, qui voyez-vous dans votre rôle? Et elle répond, ben moi-même, bien sûr. Elle est quand même extraordinaire.
C'est une femme qui a largement passé les 90 ans aujourd'hui et qui continue à dire, et elle dira jusqu'au bout, qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. Bon, alors, là, c'est aux deux anciens policiers que je m'adresse. Une affaire comme celle-là, finalement, quand on a mené l'enquête, quand on a l'expérience des affaires criminelles, etc., comment on se sent par rapport à un personnage qui est...
Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le travail qui a été fait. D'abord parce que l'affaire date de 1985, qu'on commence à la voir évoluer 4 ans après, alors que dès le début, on a des soupçons sur Madame Boudboul. Pourquoi ? Parce que dès le début, on a le sentiment qu'elle nous balade sur le fait qu'elle a invité son gendre à dîner et qu'elle a annulé au dernier moment.
On n'en a pas parlé, en fait.
Mais ça, c'est le point qui, dès le début, nous a accrochés. Ouais. Le gendre dit à ses copains, je ne peux pas venir avec vous faire la fête parce que ma belle-mère, je dois voir ma belle-mère. Or, la belle-mère a un autre dîner de prévu ce soir-là, et dès le départ, elle nie le fait d'avoir eu l'intention de voir son gendre et d'avoir annulé au dernier moment ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui n'avait d'intérêt que de fixer la belle-mère, de fixer la future victime dans son cabinet.
Et de donner un alibi aussi.
Mais on pouvait penser que la belle-mère ne serait pas l'auteur de ce meurtre. Donc il a fallu une enquête de longue haleine, il a fallu des moments où on n'avait rien ou pas grand-chose, il a fallu cet investissement, puisque c'est Catherine qu'il a fait, il a fallu des heures et des heures d'écoute d'une charcuterie pour que des années après, ce travail aboutisse. Et évidemment, ce dossier a été lourd par la pression de l'environnement, mais on est satisfait, je pense, d'aboutir, même si on n'a effectivement pas la preuve formelle. Les faisceaux s'accumulent, la conviction des jurés d'assises a été telle que la condamnation à 15 ans... paraît tout à fait justifié pour nous tous. Ouais.
Tout dernier mot, Catherine Driguet, vous avez été chargée à l'époque, en tant qu'inspecteur, de faire ce qu'on appelle l'étude de personnalité de cette femme. D'un mot, qu'est-ce que vous sortirez, si vous aviez à la qualifier, là, d'un mot, à la fin de cette émission ?
J'ai dit à la cour d'assises que M. Raffi a dit que c'était une affabulatrice de génie et qu'elle s'était inventée une vie à sa convenance. Sa vie, enfin, ce qu'elle avait espéré faire de sa vie, malheureusement, ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Donc, elle s'est inventée une vie. Après, elle est complètement rentrée dans ce personnage. Et je me demande s'il y a des moments où elle ne croyait pas vivre, effectivement, ce qu'elle pouvait raconter. Mais en tout cas, les enquêteurs ont eu une conviction forte. Et même si les preuves n'ont pas toujours été très solides, nous avons vraiment tous la conviction
que c'était pas une erreur judiciaire.
Que ce n'était pas une erreur.
Que justice est passée.
Je vous remercie infiniment. Merci à tous. Je rappelle donc le livre de Serge Raffi, La Veuve. L'émission est maintenant terminée. Merci à tous.